France Culture.
Le journal Mathieu Laurent, bonsoir Mathieu.
Bonsoir Quentin, bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, les premiers éléments de l'enquête menée à Lyon sur la mort jeudi soir du militant nationaliste Quentin Derenck. Avec Anne Fockenberg, nous nous intéresserons à la Jeune Garde, collectif antifasciste dissous par le gouvernement et pointé du doigt par plusieurs de ses membres. Croyant bien faire, la majorité des parents font une proposition numérique à leurs enfants âgés de 8 à 15 ans, souvent ou de temps en temps à la maison pour s'occuper. C'est l'un des relevés d'une étude IFOP commandée par la Fondation pour l'Enfance Précision de Cécile de Kervas-Doué. Un ouvrage de Marc Bloch spolié pendant la Seconde Guerre mondiale par le régime nazi était restitué aux ayants droit de l'historien et résistant juif 4 mois avant son entrée au Panthéon. Marion Ferrer a assisté à la cérémonie. Une victime française du pédocriminel Jeffrey Epstein a mis en cause Steve Tisch, un homme d'affaires américain très en vue. Son portrait avec Loïc Piala. Enfin, nous évoquerons l'impatience des habitants de la deuxième ville de Madagascar, toujours sans aide substantielle une semaine après le cyclone Guézani qui a ravagé l'île. Le bilan s'élève à au moins 59 morts et 15 disparus. Dans quelles circonstances le militant identitaire Quentin Derenck a-t-il trouvé la mort jeudi soir à Lyon? A-t-il été roué de coups au cœur d'une rixe entre bandes rivales? A-t-il été pris dans une embuscade, un guet-apens, comme le suggérait au conditionnel dès vendredi l'avocat de sa famille? Hier, la justice disait avoir recueilli, je cite, des témoignages significatifs avant d'annoncer la tenue d'une conférence de presse. Conférence de presse qui s'est terminée il y a moins de 2 heures. Bonsoir Mathilde Imberti.
Bonsoir Mathieu.
Mathilde, que retenir des éléments fournis par le procureur de la République ?
Eh bien d'abord qu'il n'y a aucune interpellation à ce stade. Le travail des enquêteurs est à l'identification, détaille le procureur de Lyon, Thierry Dran.
Ces derniers ont effectué de très nombreuses investigations, notamment l'édition de plus d'une quinzaine de témoins. Des analyses des vidéos qui ont pu être récupérées, sont en cours. Des constatations techniques se poursuivent toujours très activement. Puis, des interpellations seront effectuées. Au moment où je vous parle, il n'y a pas eu d'interpellation.
Étant donné les circonstances, l'enquête est requalifiée des chefs d'homicide volontaire et violence aggravée. Le procureur est revenu sur les faits vers 18h jeudi. Quentin et d'autres militants sont pris à partie. Ils étaient postés non loin de Sciences Po pour intervenir en renfort du collectif féministe identitaire Némésis. C'est avant toute intervention devant Sciences Po que la violence s'exprime.
Ils étaient pris à partie violemment, par un groupe d'une vingtaine d'individus masqués, cagoulés. La plupart parvenaient à s'enfuir, mais 3 personnes se retrouvaient isolées et étaient immédiatement frappées par plusieurs individus. Ces 3 jeunes hommes, dont Quentin Derenck, étaient alors jetés au sol, puis frappés à de très nombreuses reprises par plusieurs individus, au moins 6 pour Quentin Derenck. 2 des victimes parvenaient tout de même à fuir. Et tandis que Quentin Derenck restait au sol, le groupe des personnes les ayant frappées se retirait.
D'après l'autopsie réalisée ce matin, les lésions à la tête étaient mortelles à courte échéance. Autrement dit, il n'aurait pas pu être sauvé. On l'a compris, pas d'identité révélée pendant ce point presse. Et interrogé sur l'appartenance des auteurs directs à la Jeune Garde, le procureur n'a pas apporté de réponse. On est en train d'identifier, a-t-il redit. Quant à la victime, Quentin Derenck, il n'avait pas d'antécédent judiciaire.
Mathilde Imberti à Lyon, accompagnée de Laurent Macchietti pour la technique. Bien avant d'avoir pris connaissance de ces éléments, responsables des corps politiques ont commenté ce drame en insistant, principalement à droite, sur la responsabilité morale de la France insoumise, car, il faut le rappeler, ces affrontements ont lieu en marge d'une conférence donnée par l'eurodéputé Rima Hassan. Le ministre de la Justice, Gérald Darmanin, déclarait hier « C'est l'ultra-gauche qui manifestement a tué », fin de citation, et vous venez de le dire, Mathilde, un collectif est particulièrement cité. Il s'agit de la Jeune Garde. Bonsoir Anne Fockenberg.
Bonsoir.
Anne, que sait-on de cette organisation ?
C'est un groupe qui a été fondé à Lyon en 2018 et qui s'est créé en réaction à des mouvances d'extrême droite particulièrement violentes et prospères dans cette agglomération. Ce groupe a toujours eu un positionnement spécifique par rapport aux autres groupes antifa avec une volonté de s'ouvrir au mouvement social, comme l'explique le politologue Jean-Yves Camus.
La volonté était d'abord de dire que le fascisme était la forme la plus extrême du capitalisme. Deuxièmement, de dire que l'antifascisme était inséparable de la lutte des classes. Ensuite, que l'antifascisme ne concernait pas uniquement le combat contre les fascistes traditionnels, j'allais dire les fascistes historiques, mais qu'il devait aussi prendre en compte, intégrer l'ensemble des mouvements sociaux qui pouvaient s'interconnecter entre eux.
Selon Jean-Yves Camus, le groupe a toujours dit qu'il se mobilisait dans un cadre défensif. Néanmoins, le gouvernement a décidé de le dissoudre en juin dernier, l'accusant, je cite, de provoquer des agissements violents contre les personnes, provocation bien souvent suivie des faits. Le décret de dissolution du 12 juin dernier énumère des rixes violentes ou des prises à partie à Strasbourg, Paris et Lyon entre 2023 et 2025, agissements qui ont d'ailleurs donné lieu à des condamnations. Un recours contre cette dissolution a été déposé devant le Conseil d'État. L'audience était prévue mercredi, mais elle a été reportée sine die. Notez enfin qu'au moment de la dissolution, le groupe comptait, selon les autorités, près d'une centaine de membres dans différentes branches locales en France, un petit peu plus, selon Jean-Yves Camus, entre 200 et 400 personnes.
Merci Anne Fauquemberg. Dès vendredi soir, de nombreuses permanences de la France insoumise ont été prises pour cible, détériorées et taguées de croix celtiques, symbole partagé par les groupuscules nationalistes. L'université de Tours a porté plainte cet après-midi après la découverte de tags racistes. Il s'agit là encore de croix celtiques. La CFDT, première centrale syndicale, condamne, je cite, une ultra-polarisation des positions politiques et un climat guerrier dans le débat après l'agression mortelle de Quentin Derenque. À la demande de la Fondation pour l'Enfance, l'Institut de sondage LIFOP s'est penché sur les usages des écrans par les enfants âgés de 8 à 15 ans. Ils sont nombreux, ces écrans, télévision dans la chambre, montres connectées, smartphones, tablettes et j'en oublie. Ils sont nombreux à en posséder 1, 9 sur 10. Leurs parents, 1 sur 2, ont recours, faute de mieux, à ces écrans pour qu'ils arrêtent de pleurer ou d'exprimer une émotion. Cette enquête, Cécile de Kervès-Doué, documente avec précision la place et le rôle du numérique dans la sphère familiale et interroge tous les adultes sur la place des enfants dans notre société.
Est-ce que c'est nouveau le fait que les jeunes mitonnent un peu ? Et les parents aussi ?
Je pense qu'ils pensent savoir bien éduquer leurs enfants, que les enfants pensent qu'ils sont bien régulés, bien éduqués, alors qu'en fait, pas du tout.
Comme et Jeanne, 16 et 18 ans, sont membres du groupe miroir de la CIVISE, la commission indépendante contre les violences sexuelles faites aux enfants. L'année dernière, ils ont planché sur les effets du numérique sur la santé des enfants. Alors les réponses déclaratives de ce baromètre les font sourire, car 70% des enfants et des parents disent que l'écran sert surtout pour les devoirs. Rien à voir avec la réalité.
Moi, c'était les écrans tous les soirs. Des fois, je me retrouvais à dormir 2-3 heures par nuit dans la semaine. Je dormais en cours. J'écoutais très peu. Ma concentration a énormément diminué. Mes capacités de compréhension. Je vois aujourd'hui, j'ai du mal à lire. Au bout d'un chapitre, j'en peux plus de lire.
Pour autant, l'idée que les écrans sont une fabrique à crétins digital est une fausse idée, explique le pédiatre François-Marie Caron, membre du comité d'experts jeunes publics auprès de l'ARCOM. C'est le gendarme de l'audiovisuel.
C'est pas l'outil qui est responsable. Par contre, les écrans, à force, fatiguent, usent l'attention. Et pour régénérer cette attention, il faut dormir. Il faut faire de l'activité physique pour augmenter ses capacités cognitives. Donc les écrans vont empêcher le sommeil.
Par le fait que, par exemple, l'épisode de Netflix, il est à peine terminé, qu'il y a déjà l'autre qui commence. Le pire ennemi pour Netflix, c'est le sommeil. Donc ils vont empêcher que cette attention revienne.
Le pédiatre conseille donc aux parents d'en prendre conscience et d'en parler avec leur enfant, tout en montrant l'exemple. Et c'est bien là le problème, pointe Joëlle Sicamois, la directrice de la Fondation pour l'Enfance, qui rappelle que dans ce baromètre, plus d'un parent sur deux donne un smartphone à son enfant de 8 ans.
Quand on leur demande les raisons pour lesquelles ils peuvent donner les téléphones ou les écrans, plus de 70% ça va être pour l'occuper. Et on a en miroir 55% des enfants qui nous disent « Moi je me mets sur mon écran parce que je m'ennuie ». Il y a un enjeu sociétal aussi. Quand on voit que 40% des parents donnent les écrans pour calmer les émotions des enfants, il faut sortir du numérique seul et se questionner aussi sur les racines. C'est-à-dire pourquoi on donne des écrans aux enfants dans notre société ?
En ligne de mire, les espaces sans enfants, qui semblent fleurir à la SNCF ou dans la restauration, pendant que sur les écrans, les espaces pour enfants regorgent de prédateurs sexuels et de narcotrafiquants.
Le tour de vis de Keir Starmer, justement pour protéger les enfants en ligne. Tour de vis législatif pour soumettre les chatbots d'intelligence artificielle aux règles de sécurité, comblant ainsi le vide juridique révélé par le tollé autour des images dénudées générées par Grok, le robot conversationnel d'Elon Musk. Aucune plateforme ne bénéficiera d'un laissez-passer, a juré le Premier ministre britannique lors d'une visite dans un centre social à Londres. C'est une correspondance de Gaëlle Joly.
Alors que de plus en plus d'enfants utilisent les chatbots pour tout, de l'aide aux devoirs, au soutien psychologique, Keir Starmer a annoncé qu'il allait déposer un amendement pour obliger ces plateformes à protéger leurs utilisateurs contre les contenus illégaux créés par intelligence artificielle, sous peine de lourdes amendes, voire même de blocage au Royaume-Uni. Le Premier ministre s'est exprimé tout à l'heure.
We saw with Grok that allowed you...
On l'a vu avec Grok, ce truc permettait de déshabiller les gens. Et il l'a fait, c'était dégoûtant.
Absolutely.
absolument déboutant. On a réagi immédiatement parce que je trouvais ça inadmissible. On a pris les mesures nécessaires, on a menacé d'agir et on a gagné cette bataille contre Grok. Mais il faut que tout le monde soit vigilant et on le fera. Une des difficultés, c'est que la technologie évolue tellement vite que la législation peine à suivre. C'est pourquoi pour les chatbots, on doit prendre les mesures nécessaires. Londres s'apprête par ailleurs à lancer une vaste consultation sur le bien-être numérique des enfants qui vise notamment à étudier la possible interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans ou encore la restriction de certaines fonctionnalités comme le scrolling infini sur les réseaux sociaux.
Il est 18h10, vous écoutez le journal de France Culture. En plein discours d'adieu de son président démissionnaire, la brigade financière est venue perquisitionner les locaux de l'Institut du Monde Arabe dans le cadre d'une enquête liée à l'affaire Epstein. Des enquêteurs ont fouillé le bureau de Jack Lang en quête de traces d'un blanchiment de fraude fiscale lié à une société offshore fondée par sa fille Caroline et Jeffrey Epstein, mort en prison en 2019. Aucune information n'a filtré à l'heure qu'il est. Une victime française, cette fois du pédocriminel, à elle mise en cause, Steve Tisch, un homme d'affaires américain. Jeffrey Epstein a mis en relation le producteur avec plusieurs femmes, Loïc Piala. Steve Tisch, un homme particulièrement exposé puisqu'il opère dans deux milieux très médiatiques aux États-Unis, Hollywood et le football américain.
À 77 ans, Steve Tisch est habitué au succès. Les tabloïds l'ont décrit dès 2008 comme un homme qui aime les fesses et qui se targuait de sortir avec des femmes sur les deux côtes des États-Unis. En tant que producteur, il a gagné un Oscar grâce à Forrest Gump. Il a travaillé plusieurs fois sur des projets avec Will Smith ou Denzel Washington. Il était aussi impliqué dans Risky Business, le premier grand rôle de Tom Cruise dans lequel il joue un lycéen bourgeois qui fréquente une prostituée. Sa société va sortir deux grosses productions dans les prochains mois, Les Maîtres de l'Univers, l'adaptation d'un dessin animé, et Madden, film biographique sur une légende du football américain interprété par Nicolas Cage. Tisch est justement copropriétaire des New York Giants, l'une des équipes de NFL les plus populaires du pays. C'est son père qui avait racheté 50% du club au début des années 90. Après son décès en 2005, Tisch a récupéré cette part et gagné deux Super Bowls en 2008 et 2012. Le nom de ce père de 5 enfants est cité à plus de 400 reprises dans les documents que le ministère américain de la Justice a publiés fin janvier dans le cadre de l'affaire Epstein. D'après leurs échanges par email, le criminel sexuel le mettait en relation avec de jeunes femmes, une actrice avec, je cite, « un joli cul, une tahitienne exotique ou une étudiante en microbiologie ». Ces mails remontent à 2013, à une époque où le financier avait déjà été mis en cause dans des affaires sexuelles. Dans un communiqué, Tisch reconnaît avoir échangé par mail au sujet de femmes adultes, précisant qu'il parlait aussi de films, de philanthropie et d'investissement. Il y insiste sur le fait qu'il ne s'est jamais rendu sur son île et qu'il regrette profondément de s'être associé à cette personne horrible.
Loïc Piala, l'autorité palestinienne, l'Égypte et le Qatar et depuis quelques heures, le roi Abdallah II de Jordanie dénonce de nouvelles mesures foncières prises par Israël qui renforcent son contrôle sur la Cisjordanie. Une semaine après avoir approuvé un texte facilitant les achats de terres par les colons, le cabinet de sécurité israélien a donné son feu vert hier au lancement d'un processus d'enregistrement foncier, une première fois depuis l'occupation de 1967. Une semaine après le cyclone Gezani qui a ravagé Madagascar, le bilan s'élève à au moins 59 morts et 15 disparus. C'est le cyclone le plus dévastateur depuis 30 ans sur l'île. Les dégâts sont considérables et plus importants ont lieu à Tamatave, la deuxième ville du pays, 400 000 habitants. Mardi dernier, il faut se figurer cela, les vents ont soufflé à 250 km/h. Plus des trois quarts de la ville sont détruits. Bonsoir Élie Ducot.
Bonsoir Mathieu.
Élie, les habitants s'impatientent car tout simplement les secours et l'aide tarde à arriver.
Oui, les images envoyées par les habitants sont impressionnantes. Julio Isaka, que nous avons joint il y a quelques heures, vit dans le nord de Tamatave. Il avait suivi les consignes officielles et protégé sa maison avec des sacs de sable. Mais face à la violence du cyclone, il a tout perdu.
Il y a ma maison qui s'est effondrée, perdu le toit et tout ça, le mur. Les murs s'effondrent. Il est vraiment inhabitable, quoi. Certaines affaires des écoles des enfants sont détruites. Vraiment, les dégâts sont très graves. Il n'est pas que moi, hein. Presque tout le monde dans le quartier qui ont les maisons subit les mêmes sorts.
Depuis une semaine, la solidarité s'organise. Pas d'eau potable ni d'électricité. Les prix des denrées et des matériaux de construction ont doublé. Julien Le Gouguec, professeur au lycée français, est très inquiet car les besoins sont immenses.
En fait, on craint un désastre humanitaire dans les prochains jours, les prochaines semaines. La situation est désastreuse, catastrophique. Il faudrait réparer les hôpitaux, réinstaller l'électricité en ville et le système d'eau, et aider les quartiers sinistrés à déblayer et à reconstruire au moins des habitats de fortune pour permettre aux gens de se reloger. Il y a 300 000 personnes sans maison, une ville qui est en ruine. Il paraît que la coopération internationale a commencé, mais enfin, je vous assure, en ville, on voit rien.
Et après avoir dévasté Madagascar, le cyclone a poursuivi sa route vers la côte orientale de l'Afrique, où il a fait au moins 4 morts au Mozambique.
Merci Élie Ducos. Il est 18h15, 82 ans après son exécution par la Gestapo en 1944. L'historien et résistant juif Marc Bloch doit rentrer au Panthéon le 23 juin prochain, 4 mois avant cette cérémonie. Une première étape importante s'est déroulée ce matin au sein de la Bibliothèque nationale de France à Paris. Au cœur de la salle Labrouste, l'Institut national d'histoire de l'art a restitué un livre de la collection de Marc Bloch à sa famille, un ouvrage spolié pendant la Seconde Guerre mondiale lors du pillage en 1942 de son appartement parisien par le régime nazi. Bonsoir Marion Ferrer.
Bonsoir Mathieu.
Marion, c'est un véritable, il faut souligner, un véritable travail de fourmi qui a permis cette restitution.
La description abrégée de la cathédrale d'Amiens, c'est ce petit livre à la reliure cartonnée qui a été restitué par l'Institut national d'histoire de l'art à la famille de Marc Bloch. Et quand Mathis, son arrière-petit-fils, l'ouvre, on peut en effet découvrir l'écriture penchée du résistant.
Eh bien, Marc Bloch avait la bonne habitude d'inscrire son nom au début de l'ouvrage, avec le lieu où il a obtenu l'ouvrage et la date. C'est l'ex-libris qui fait foi. L'avoir entre les mains, c'est quand même quelque chose. Oui.
Un livre modeste disparu depuis 1942, tout comme les 5 à 7000 autres ouvrages qui composaient la bibliothèque professionnelle de l'historien. Une restitution essentielle pour Mathis Bloch, synonyme de reconnaissance du vol subi par sa famille.
Il y a environ 2/3 des livres qui n'ont jamais été restitués à la famille. Le gros problème à laquelle on est encore confronté aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas prouver le nombre exact de livres qui est dans cette bibliothèque, vu que les Allemands ont spolié l'inventaire en fait de la bibliothèque. Et en l'absence d'un catalogue, on ne peut pas donc être indemnisé.
Et ces restitutions sont rares car la tâche est immense. Au moins 5 millions de livres ont été pillés par les Allemands en France et à la fin du conflit, environ 150 000 d'entre eux ont rejoint nos bibliothèques publiques où un véritable travail de fourmi, vous l'avez dit, a débuté en 2018. C'est le cas dans les fonds de l'INHA. Anne-Solène Roland en est la directrice générale.
Un travail très important a été fait qui a abouti à identifier environ 1200 ouvrages considérés comme spoliés. Et c'est le premier qui est rendu.
Mais tous ces livres n'ont pas été marqués par leur propriétaire.
Merci Marion. Pardon.
Il faut être absolument certain que c'est le bon exemplaire, que c'est bien la bonne personne, qu'il a bien fait l'objet d'une spoliation. Et ça consiste à un travail d'enquête très minutieux qui croise les archives, les listes, les inventaires et notamment les inventaires des ouvrages revenus d'Allemagne après la guerre.
Et selon la mission de recherche et de restitution des biens culturels spoliés au ministère de la Culture, une dizaine de dossiers sont actuellement ouverts avec une centaine de livres à restituer. La famille Bloch, elle, va pouvoir en récupérer 7 supplémentaires retrouvés 7 fois en Allemagne.
Merci Marion Ferrer. Enfin une question. Quel avenir pour les cétacés du Marineland d'Antibes? Pour la première fois depuis sa fermeture il y a un an, le ministère de la Transition écologique réunissait cet après-midi tous les acteurs concernés pour tenter de trouver un point de chute décent aux orques et aux dauphins du zoo marin. Et même s'il faut le faire vite, il reste des inconnus, Véronique Ruberotte.
Oui, faire vite, c'est ce que dit un rapport rendu public aujourd'hui qui alerte, je cite, sur la dégradation structurelle avancée des bassins des orques du Marineland d'Antibes, où ils se trouvent toujours. Construits il y a plus de 25 ans, ces bassins se figurent à vue d'œil. Des bassins en décrépitude avec des animaux estimés en danger, sans transfert rapide. La seule solution serait d'euthanasier les deux orques, Wiki, 24 ans, et Kenjo, 12 ans. Pour eux, le comité réuni cet après-midi n'a pas permis de dégager une solution immédiate. La possibilité d'être transféré dans un sanctuaire en Nouvelle-Écosse au Canada reste à l'étude, mais ce sanctuaire où les orques seraient en semi-liberté n'est encore qu'un projet. Donc face au manque de consensus observé cet après-midi de la part aussi de tous les acteurs concernés, le ministère de la Transition écologique a souhaité conserver dans les discussions la solution proposée par l'Europarquet à Tenerife en Espagne, sachant que cela nécessiterait des bassins plus adaptée et une approche plus responsable de la captivité. Comprenez, les bassins, ils sont trop petits et peu profonds. Les ONG s'y opposent en l'état. Une décision définitive, dit le ministère, sera prise d'ici la fin du mois de mars. S'agissant des 12 dauphins du Maryland d'Antibes, ils devraient déménager au zooparc de Beauval, dans le Loir-et-Cher, avec 11 même autres dauphins du parc Planète Sauvage près de Nantes. Les soigneurs du Maryland souhaitant accompagner leurs animaux pourraient même être intégrés en priorité dans les processus de recrutement du zooparc de Beauval.
Merci pour toutes ces précisions. Véronique Rubérot, un point express sur les inondations. Le département du Maine-et-Loire est passé en vigilance rouge pour crue, rejoignant ainsi la Gironde et le Lot-et-Garonne sur ce niveau d'alerte maximale, tandis que 14 autres départements de la moitié ouest du pays, de l'Ille-et-Vilaine à l'Aude, sont maintenus en vigilance orange. Quelques mots de la météo de demain matin. Le ciel reste gris sur un quart sud-ouest, apporte par moments quelques pluies, plus marquées par blocage sur les Pyrénées, minimales, les températures entre 1 et 5 degrés du Grand Est à la Normandie et Auvergne, 4 à 10 sur le reste du pays. Ce journal a été préparé avec Nina Malray, à la technique Jean-Guy Lermège.